Donc juste une présentation. Je suis David Gauthier et je m'occupe des affaires culturelles de l'ENS de Lyon. Et en même temps, je suis chargé de mission image. Et en 2005, nous avons créé un partenariat un peu inédit en France entre l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et notre école, où nos élèves et les élèves de l'école d'Arles travaillent ensemble pour créer, justement. Donc, c'est créer avec l'autre, voilà. Et aussi, comme le titre de ce séminaire l'indique, de manière collective, parce que souvent, ce sont des binômes ou des trinômes, ou voire plus, voilà. Parce que les rencontres se font par affinité de sujets, affinité de connaissances, ou voire antinomie aussi, antinomie. Alors, juste... Je vais juste replacer le contexte de ce partenariat, parce que vous voyez, on est en 2013, donc il a déjà 8 ans. On est à la 5e édition, il y en a eu 4, et la 5e est en cours. La première s'appelait Duel, et si vous voulez, le projet au départ, la première édition, ça a été vraiment... Parce que là, l'idée, c'est aussi de vous montrer les coulisses, et que tout n'est pas idéal et tout n'est pas beau. Forcément, dès le départ. Voilà. Et donc, le premier partenariat, on ne savait pas où on allait, parce que c'est une école qui dépend du ministère de la Culture, avec une école qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, qui veulent travailler sur un terrain qui est un peu, d'après le monde académique, on va dire, est un peu bateau, écriture et photographie, test et image, on va dire. Et justement, nous, on a voulu essayer de dépasser ça la première année en disant « Oui, mais ce ne sera pas un commentaire d'image, ce n'est pas notre propos. » C'est que les élèves du projet de l'ENS soient considérés comme des créateurs, au même type que le photographe qui est dans une école d'art. Donc, on a dû rassembler des forces vives de part et d'autre. Donc, si vous voulez, les écoles sont un peu... sont très différentes, on va dire. C'est... l'école d'Arles est la seule école en France de photographie. Ce sont des promotions de 30 élèves, un parcours en 4 années. Donc vous voyez, il y a 120 élèves dans cette école. Alors que nous, maintenant avec la fusion, mais si on revient en 2005, il y avait à peu près 800 élèves. Et ce n'est pas des petites promotions, c'est tout corps, toutes disciplines confondues. D'où la difficulté aussi de faire, de mettre en place un canevas de sélection des élèves qui vont participer au projet, et aussi, d'arriver à s'harmoniser pour que ce projet tienne. Donc, du côté de l'école d'Arles, eux, ça a été très simple. Ils commencent à travailler. C'est un projet qu'on a mis en place sur 2 ans. Donc, eux, ils commencent à travailler avec les deuxièmes années. Et ça va se poursuivre avec les troisièmes années où ça va être l'obtention de leur diplôme. Nous, c'est plus compliqué. Ça a été une sélection par appel à projet de formation d'élèves de différentes disciplines. Alors, pour revenir en 2005, donc, vous voyez, du côté d'Arles, c'est un corps enseignant. Il y a deux enseignants. Du côté de l'école, ça a été le fait de... On a travaillé... les partenaires partants sur ce projet étaient Jean-Marie Delaize, un poète et directeur d'un laboratoire de recherche de l'école qui s'appelait le Centre d'études poétiques à l'époque. Et donc, le Centre d'études poétiques était partenaire de ce projet. Et en même temps, Histoire de l'art, qui ne s'appelait pas à l'époque Histoire de l'art, mais qui s'appelait art tout court, même si ça voulait rien dire en 2005. Mais si vous voulez, la dimension artistique dans l'école est arrivée en 2004, où il y a eu des cours d'histoire artistique. Non. Voilà, parce que vous savez, c'est la suite du plan Tascalang, où l'enseignement artistique doit aller de la maternelle à l'université et aussi dans les grandes écoles. Donc ça a été mis en place en 2002 dans les Hippocagnes et Cagnes, qui ont formé donc des élèves pour passer des concours d'entrée en études musicales, en études théâtrales pour notre école. Après, ça s'est étoffé, il y a eu études cinématographiques Et la petite dernière a été Histoire des arts. Voilà. Même si à l'époque, c'était pas Histoire des arts, je le rappelle, c'était art et c'était plus une dimension entre les arts plastiques et de l'anthropologie visuelle. Ça c'était très largement imprégné par l'intervenante de l'époque qui s'appelait Marie Gautron et qui était une enseignante plus... elle a fait des partenariats avec l'École du Louvre sur des questions sur les traces du serpent, vous voyez, des choses très... mais de logique atelier, plus que théorique. Voilà, plus que théorique. Donc, on a dû mettre en place un canevas de travail en 2005. Et donc, l'idée, ça a été de faire des rencontres après. Donc, nous, si vous voulez, la sélection du côté d'Arles se fait, ils en retiennent, pour revenir à celle de 2005, ils en ont gardé 10, voilà, qu'ils ont sélectionnés, des vidéastes, des photographes, avec des dimensions différentes de travail. Et nous, on a sélectionné par étapes, bien en amont, un an avant qu'ils se rencontrent, sur des qualités d'écriture qui étaient surtout jugées par l'enseignant du Centre d'études poétiques, Jean-Marie Delaize, qui est poète, qui a sa vision de l'écriture. Et donc, si vous ne connaissez pas ce poète, c'est quelqu'un qui prône la littéralité. Donc, vraiment à l'antithèse du lyrisme, du romantisme. Et donc, c'est vraiment aller à l'essentiel et ne garder que le mot qui a une pertinence, une force. Voilà. Alors je caricature, hein. En plus je parle devant quelqu'un qui connaît très bien Jean-Marie Delaize, Christophe Fana, donc il pourra compléter plus tard s'il le souhaite sur mes propos très succincts et rapides sur la poésie de Jean-Marie Delaize. Donc voilà, et du côté de l'école, il y avait cette enseignante Marie Gautron. Donc, nous, on en a sélectionné aussi 10, avec des qualités d'écriture très différentes, pour justement, et des thématiques très, très différentes aussi, et pour les lancer dans le partenariat où, pour eux, ils avaient deux territoires à investir sur écriture et photographie, qui était le premier territoire, un livre, et une exposition, le second, d'où en 2 ans. Même si l'état d'esprit, c'est de... Même si l'exposition se fait la deuxième année, en vérité, tout découle du travail qui est lancé au départ sur la notion de partition. J'utilise ce mot parce qu'il est très symbolique et très synthétique de ce projet partition, parce que c'est vraiment une partition entre un élève qui écrit et un élève qui photographie, et comment ils vont travailler ensemble pour que l'écriture rentre dans l'image ou que l'image soit imprégnée de l'écriture et vice-versa. Bon, après, vous connaissez tous des référents dans l'histoire de l'art par rapport notamment très récent, Marguerite Duras qui a fait appel à un photographe et ils ont fait un roman ensemble, une sorte de roman photo où Marguerite Duras se baladait avec ce photographe et pointait du doigt des paysages que le photographe devait prendre. Donc c'était... comme si c'était un travail de commande, là. Donc, il y a des relations comme ça dans ce travail. Mais c'est vraiment dépasser et vraiment dire qu'on est dans l'hybridation. Voilà, c'était le plus de ce projet. Mais ça, ce sont les élèves qui l'ont mis en place eux-mêmes. C'est d'hybrider la chose écriture, d'hybrider la chose image, pour en faire un mot qui n'existe pas, image-mot peut-être, voilà, quelque chose de cet ordre. Donc, on les fait rencontrer. Donc, les séances se font à Arles, soit à Lyon, où ils présentent chacun leurs travaux. Et donc, on leur laisse le temps de présenter leurs travaux. Ça prend une bonne journée, aussi bien pour les écrivains, donc s'ils écrivent de la poésie, s'ils font des recherches sur le monde japonais. Alors, j'essaie de me remémorer Duel, hein, parce que voilà, il est là. Parce que là, on est déjà au 5e projet et je suis sur coopérateur en ce moment. Mais à l'époque, donc dans les 10, il y a par exemple une étudiante de chez nous, Valérie Hainaut, qui travaille sur la Shoah et qui maîtrise très très bien les thématiques de Didier Huberman, de ces philosophes sur la question de la Shoah. Et on a une photographe qui travaille sur la gestion du patrimoine de l'Holocauste en Pologne, donc Auschwitz, mais pas seulement Auschwitz, c'est tout le complexe, ce Birkenau, Monowice et Auschwitz, et comment ce patrimoine, oui, c'est du patrimoine malheureusement, de l'humanité est géré par les Polonais Et donc, la photographe, elle, Léa Ouzan, décide. Alors, c'était intéressant cette rencontre, c'est que justement. Donc, vous voyez pourquoi je parle de ça, parce qu'il y en a une, Léa Ouzan, qui travaille sur sur ce que je viens de dire, la gestion du patrimoine de la Shoah sur Auschwitz, avec cette complicité, mais actuellement. Et de l'autre côté, on a une étudiante qui travaille sur les écrits d'Eddie Huberman et sur ces questions de l'horrible et comment montrer l'irreprésentable, d'une certaine façon. Et donc, ces deux personnes, vous voyez, dans les temps de présentation, vont voir qu'il y a des points en commun. Et l'un va nourrir l'autre, et vice-versa. Donc, Léa Ouzan et Valérie Hainaut vont travailler ensemble du fait que Valérie Hainaut va apporter des questions philosophiques que ne maîtrise pas forcément la photographe. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que la photographe ne voulait pas... Alors, c'est là aussi la difficulté, mais c'est aussi le principe de cette rencontre, ne voulait pas être complètement muselé par toutes les connaissances théoriques et voulait justement, elle n'était ni juive, ni concernée par cette question, directement ou familialement, mais aller par contre dans ces lieux avec sa chambre, poser sa chambre et photographier ce qu'elle voit et prendre le temps de ce qu'elle voit. Et elle voit des choses qui sont très intéressantes, et on en parlera tout à l'heure, en vous montrant des images. Mais voilà comment se nourrit cette rencontre. Et donc après, l'idée, c'est qu'ils doivent bâtir. Donc vous voyez, il y a une partition. Et pour précipiter après l'alchimie entre ces deux types d'élèves, il y a une exposition jalon qui se déroule. Alors si vous voyez, si en termes de calendrier universitaire, on commence en octobre. On a nos rencontres entre octobre et décembre. On affine avec eux en janvier, février, mars, en leur apportant des connaissances, des qualités d'écriture, des recherches, des pistes. Et en avril, ils montrent une exposition jalon où ce sont eux vraiment les auteurs, qui se déroule à Arles, dans la galerie Arena, la galerie de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Et qui est aussi une sorte de séminaire, parce qu'après après qu'ils ont monté l'exposition, il y a tout un temps de décantation, de critique collectif, où chaque binôme, les 10, regarde ce qu'ont fait les autres binômes et interviennent sur des compléments, sur comment on perçoit aussi ce qui est montré, la posture du regardeur, toutes ces questions. Et de là, après, va naître, donc, c'est un temps fort parce que ça permet d'asseoir leur partition et de se dire, maintenant, on va travailler là-dessus et comment on va réaliser 10 pages dans l'ouvrage, où c'est vraiment eux qui font les 10 pages, la maquette des 10 pages. Et donc, ils ont ce travail où ils ne sont pas formés, parce que les nôtres, par exemple, ne connaissent rien à la police, à tous les termes de typographie, au terme de graphisme. Donc, on doit les aider aussi avec des séminaires, avec des typographes, des graphistes, pour justement comprendre que tel ou tel choix de police va avec l'esprit. Par exemple, c'est très intéressant, on se rend compte que tous les sites internet des institutions ont tous la même police. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est une police qui a été créée sous le Troisième Reich et qui a des valeurs autoritaires. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, même le site de l'ENS l'utilise, le site de Beaubourg, etc., c'est pour marteler très fortement un discours. Et comme par hasard, les institutions utilisent cette police. Dans les sites internet, pas le Times classique qu'on a dans l'administration, etc., mais quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un typographe suisse qui intervient, qu'on fait intervenir nous pour former les élèves, qui travaille au musée de l'imprimerie et à l'Institut d'histoire du livre et qui leur donne un petit cours, alors de l'Antiquité jusqu'à nos jours, sur la police, sur la typographie surtout, et pourquoi la valeur d'une police, et que c'est un choix de civilisation aussi, une police, que c'est pas anodin, telle police, et de même, alors là je suis désolé, parce que je cours tout le temps, mais j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail, de reprendre les notes des différents... surtout là, c'est très loin en arrière, de elle. Mais par exemple, il y a deux, le Times et le Helvetica qui sont très couramment pratiqués, ont vraiment une origine très, très simple, mais je suis désolé, je ne pourrais pas le dire. Mais c'était assez fascinant parce qu'on se rend compte que la police Helvetica, par exemple, a vraiment une. Si elle porte le nom Helvetica, c'est vraiment un typographe suisse qui l'a inventé. Et ça, il ne faut pas chercher très loin. Et qu'elle avait vraiment une valeur de neutralité. Et qu'elle est utilisée par l'ONU, par beaucoup de sites suisses de neutralité. La première, c'était la Croix-Rouge. Voilà, je cherchais le. C'est la Croix-Rouge qui a utilisé la Helvetica. Donc, ça, c'est le galop. Donc, après, ils doivent rendre les 10 pages de maquette pour définir leur proposition avec tout ce que ça induit, parce que là, c'est pas sur les murs, mais c'est dans un livre. Donc, on peut avoir une narration, on a donc la pliure, on a le déroulement. Il y a toutes ces considérations à prendre en compte dans le maniement des 10 pages. Alors, peut-être pour illustrer mon propos, alors c'est sûr. Alors je suis désolé parce que j'ai pas la maquette de l'exemple dont je vous parle, mais alors je vais vous prendre un autre exemple, c'est dommage. Donc vous voyez là c'est la maquette de l'ouvrage, mais alors là c'est la seconde édition. Donc je vais juste prendre un autre exemple, donc Thibaut Croisy et Ophélie Coelho. Donc Ophélie Coelho est une photographe qui travaille sur les enfants non-voyants, on va dire, qui était dans un centre près de l'école, d'ailleurs, on l'a su après, alors qu'elle travaille à Arles, etc., mais elle vient faire ses recherches sur ses enfants non-voyants, voilà. Et Thibaut Croisy est un élève de chez nous qui travaille beaucoup sur, qui était en études théâtrales, et qui travaille sur Copy, qui est décédé il y a un peu, là, et qui a aussi une virulence dans ses mises en scène, des propos très durs. Notamment, il avait mis en scène un test de Ritz de Jean-Claude Carrière, qui était assez dur. Donc, c'est même les gens n'ont pas compris quand ils sont sortis de la pièce, parce que c'était par rapport autour des gens des banlieues qui ont des propos racistes, frontistes, etc. Et on savait pas s'il faisait une critique ou s'il était pour. Et c'est vrai que c'était très dérangeant. Très dérangeant, mais bon, ça c'est son parti pris de metteur en scène, d'ailleurs, ce qui était intéressant dans cette ambiguïté, c'est que dans son propos, il a été repéré par, alors il est décédé maintenant, le directeur du théâtre de la Croix-Rousse, il avait pu remontrer ses pièces au théâtre de la Croix-Rousse. Donc c'était juste pour vous dire que voilà, la rencontre, parce que c'est vraiment des personnalités très différentes. Ophélie a plutôt une finesse, vous voyez, ces types de photographies. On ne voit pas grand-chose, mais bon. Vous voyez quand même un peu où... Ouais. Donc, vous voyez, ces enfants sont non-voyants, mais à les prendre dans leur quotidien, sans pathos. D'ailleurs, on peut se demander souvent s'ils sont plutôt autistes ou peut-être trisomiques, plutôt que non-voyants dans certaines postures, comme le garçon avec la tête vers le haut, là. Mais sinon, la séance du coiffeur, elle n'est pas... Il y a une pudeur dans l'intimité de ses enfants. Alors que, comment il s'appelle, Thibaut va, par exemple, faire une définition... Va reprendre la définition du dictionnaire de Mirage et va rayer les mots, mais on va pouvoir les lire encore et rappeler ce que c'est qu'un mirage. Donc l'illusion, le bombard, voilà. Donc, par exemple, là, mirage, phénomène, s'étendant à l'horizon, se reflèteraient les objets éloignés. Donc, c'était un rapprochement assez audacieux, parce que pour des enfants qui ne voient pas, lui, il parle de mirage, et on est quand même sur des questions de perception, d'illusion, d'apparence, de choses. Et de même que, par contre, la note, là, c'est lui qui l'a rajoutée. Hein. Ça n'a rien à voir dans le dictionnaire. Alors, c'était sorti du petit Robert, du nouveau petit Robert. Donc, la note, lui, c'est la nota bene, c'est lui qui l'a rajoutée. Donc, le mirage n'a rien de subjectif. Il est possible, par exemple, de le photographier. Le mirage n'a rien d'irrationnel. Il s'explique par l'optique géométrique et les lois de la réfraction. Il ne participe donc pas d'une illusion optique, mais d'une réalité optique. Voilà, et en soulignant les mots « loi » et « réalité », en insistant, comme il ne les a pas raturés. Et si vous voulez, après aussi, donc vous voyez, c'est, C'est assez intéressant parce qu'ils mettent là aussi, il y avait une lettre qu'il écrit à donc c'est un peu dur, mais je vais vous la lire. Ma très très chère petite pupille, j'espère que tu vas bien et que quelqu'un pourra te lire cette lettre. Ce matin, j'ai reçu une lettre d'une dame qui m'a donné de tes nouvelles. Tu ne peux pas savoir comme cela m'a fait chaud au cœur. On me dit que tu es en forme, que tu restes assise toute la journée dans un fauteuil, sans bouger et sans parler, et sans pleurer et sans faire de bruit, et que les gens, ils passent devant toi et ils disent « Oh, regardez la jolie petite pupille, comme elle est jolie. » Ça, pour sûr, tu es jolie, ma jolie petite pupille. Ça ne fait aucun doute. Bon, je ne vais peut-être pas vous lire toute la lettre, mais ça vous montre la tonalité de la lettre, le côté énigmatique. Bah, énigmatique, non. On ne sait pas si c'est vraiment la mère qui écrit à la petite fille, qui est aveugle, ou c'est la petite fille qui écrit à sa pupille, d'une certaine façon. Donc, on joue sur des registres assez durs, je trouve. Et donc, vous voyez, c'est intéressant, cette collision entre un travail assez fin de la photographe et Thibaut. Et là, on est dans la pierre fondatrice du projet, c'est l'altérité, c'est la rencontre. C'est accepter qu'on est créateur en photographie, mais qu'on puisse discuter avec un écrivain, ou un écrivain, on va dire, parce que est-ce que Thibaut, à cette époque, était écrivain ? Non, plutôt écrivain. Qu'ils acceptent de dialoguer, même si leur tonalité, leur façon d'être sont différentes. Et c'est, pour nous, c'était vraiment important, ça, parce que si ça, c'est pas respecté, il n'y a aucun intérêt de faire ce projet s'il n'y a pas de rencontre, s'il n'y a pas de discussion possible, s'il n'y a pas de... Voilà. Et des fois, ça fait vraiment des tensions, des frottements. Mais finalement, quand on reprend contact avec eux après, ils se rendent compte que finalement, c'était formateur pour eux. Et que même pour leurs travaux personnels, si le photographe continue ses travaux personnels, etc., il sera amené de toute façon à travailler des fois avec des gens du spectacle vivant ou des sociologues. Et donc, ça leur apprend à travailler ensemble, voilà, à travailler collectivement. Et donc là, on est dans une relation de deux, mais c'est vrai que dans 282 km x 2, il y avait une chose assez intéressante, c'est que il y avait une photographe et les 6 élèves du projet. Alors juste comme ça, par exemple, vous voyez, là, on a, pour vous montrer un peu les tonalités, donc là, on a Dorian Beer, qui est la photographe qui travaille sur le Japon, mais elle n'est pas, japonisante, sinologue. Et donc, elle photographie le Japon, mais elle ne sait pas du tout ce qu'elle photographie, alors qu'il y a plein d'idéogrammes. Et Dorian Beer, elle, est en étude de japonais. Donc, justement, elle va lui montrer plein de choses qu'elle n'a pas vues. Elle voyait surtout les dimensions visuelles, les mangas, etc. Et après, vous voyez, il y a tout un travail. Là, par exemple, c'est la foule à Tokyo. Et Dorian, eux, ensemble, vous voyez, la partition, là, c'est vraiment tout s'imbrique. Et donc, on s'amuse à faire défiler le texte. Donc, quel est le sens j'arrive même plus à lire. Voilà. Et après, on pourrait découper, mais garder le bon sens. Même moi, je m'y perds. Hein. Croiser les mots. Vous voyez, donc ça tombe comme des lettres. Comme on fait le slam, hein, quand les slameurs lisent comme ça. Hein. Les mots sont dans ce sens. Alors qu'elle fait défiler les rencontres. Mais il y a une autre chose aussi intéressante, c'est par exemple, vous voyez, il y a vraiment une déclinaison là entre... Là, par exemple, on a l'idéogramme image qui se dessine dans les vides du test d'Apollinaire. Alors, c'est la définition que donne Apollinaire sur le calligramme, repris par l'Encyclopédia Universalis. Si on continue sur cette partition qui était vraiment intéressante et que Jean-Marie Delaize a beaucoup appréciée, c'est par exemple là aussi, on a toutes les stations de métro de Tokyo et ils sont fanatiques des distributeurs de boissons, etc., de différentes couleurs. Donc elle a photographié où il y avait les stations, et ils se sont amusés à de reprendre des citations de différents poètes et de les mélanger dans l'énergie de la foudre, soleil et lune unie, etc., sur les lignes de métro de Tokyo. Et là aussi, c'est une très belle. Donc, c'est des superpositions de visages japonais. Et on a du Roland Barthes, on a différents. Voilà. Et en même temps, les idéogrammes. Et les mots, leur traduction aussi, sur l'écriture noire. Voilà. Mais là, on est toujours dans une relation 1-1. Alors, la relation où il y a. On avait aussi un trinôme. Alors, vous voyez, je suis désolé, hein, j'ai essayé de faire quelque chose de carré, mais. Je pars en vrac, on va dire. J'espère que ça, vous arrivez à... Oui, c'est clair. Faites des haussements de cils, oui, ça va. Comme ça, je... Donc voilà, on avait là, par exemple, donc trois écrivains avec un photographe. Alors, un photographe chilien, Celsor Herrera Nunes, et trois filles de Chinois, Ariane Carmignac, Julia Sherdewin et... Amélie Linhart, qui avait chacune une qualité d'écriture très différente. Et ce qui était très étonnant, c'est que Celsor Herrera Nunes, qui se considère dans la photographie humaniste, dans la Henri Cartier-Bresson, la belle photographie, où on cherche le puntum, comme dit Roland Barthes, qui fait que la photographie, qu'il y a un plus dans une image, a passé au départ carrément commande aux trois filles en disant « Moi, je veux que vous m'écriviez comme Paul Éluard. » Alors, ça leur a fait très sourire. Parce qu'elles n'avaient pas du tout envie. Et c'est normal. Hein. Elles n'ont pas envie d'imiter ou de pasticher Paul Éluard. Hein. C'est une discussion. Donc, ça a été des sources de conflits. Alors, ce qui était assez amusant, c'est qu'au départ... Alors là, on n'a pas le début, l'embryon de projet, mais elles se sont moquées de lui un peu. Elles ont écrit à la manière de Paul Éluard, mais c'était tellement mauvais qu'il n'en a pas voulu. Et donc, il en est arrivé à la conclusion que finalement, il faut mieux qu'il accepte leur qualité d'écriture à elles, point, qui ne demande pas de faire du mauvais Éluard ou du faux Éluard. Voilà. Donc, vous voyez, c'est... Alors, à chaque fois, alors... Je reprends connaissance d'une certaine façon de ces projets-là. Parce que ça, c'était en 2007. Donc, il y a déjà réécriture. Donc, c'est le titre de leur partition. Donc, vous voyez, il y a celui qui produit des images. C'est en même temps une bonne synthèse du projet. Mais en 2007, parce que plus on approfondit, plus le projet se complexifie, s'affine. Il y a celui qui produit des images et parfois les donne à voir. Il y a ceux qui les reçoivent et parfois les disent, s'engage alors un incessant va-et-vient de lecture et réécriture. Donc, vous voyez, c'est ça le projet. Pendant un an, ils vont s'envoyer, discuter par téléphone, par Skype, parce qu'on ne peut pas faire que des temps à Arles ou à Lyon. Premièrement, c'est un coût financier, tous ces déplacements, et en même temps, un coût humain aussi. On peut pas, les écoles sont, comme l'indique le titre de la seconde. Du second partenariat à 282 km à vol d'oiseau. Voilà, c'était un titre assez agréable, je trouve, parce que c'est du côté, il y a une école qui travaille sur les images, de l'autre côté, une école qui travaille sur les lettres, l'écriture, et le titre, ce sont des nombres, donc une sorte de terrain neutre, comme ça, entre les deux écoles. Et donc, dans leur partition, réécriture, et tu me stopperas, Martine, quand il faut, parce que je ne maîtrise plus le temps, là. Donc, par exemple, vous voyez, ça, c'est le style de photographie de Celsor. Donc, c'est des hommes ou des enfants à toujours la même heure de la journée, d'où l'ombre et la lumière très... Donc là, par contre, il n'y a pas de travail d'écriture. Donc là, c'est un mauvais exemple, mais ça vous donne au moins le style de photographie de Celsor, Herrera Nunes. Alors, il y a différents pays. Hein. Il y a le Brésil, il y a le Portugal, il y a... les États-Unis, il y a Marseille, Arles, c'est marqué. Oui, voilà. Alors, les filles, elles ont plutôt... rien n'est signé. Et par exemple, là, elles ont fait chacun un test sur cette petite image qui explique ou n'explique rien sur cet enfant. Et elles ont fait différents styles. Par exemple, cette image dans un bidonville... au Portugal, est un peu horrible parce qu'elles ont fait chacun, là, par contre, location, une annonce, qui montre aussi la condition, la disproportion entre le tourisme, les gens qui amènent des devises et qui louent un super, et puis la réalité de certaines populations au Portugal. Après, vous avez quelque chose, un mail, ou je sais pas, alors je rep... là, je... Ah oui, c'est assez... oui. Et puis, on a en dessous un autre style encore, un entretien, où l'entretien est assez, assez terrible, je trouve aussi, juste pour... je vais vous le lire. Portimao, juillet 2005, un enfant danse dans une poubelle en solo. Interview. Journaliste. Dis-moi, Pablo, qu'aimerais-tu faire plus tard? Jouer au foot comme Ronaldinho, dans mon équipe, Bob, et avoir la même moto que le grand Carlos. Journaliste. Tu voudrais vivre en ville, gagner beaucoup d'argent. Non, ça va ici, c'est bien, on a un petit ballon en mousse. Manuel a même gagné un filet pour faire les buts, et puis le terrain vague est grand. Il y aura la place de faire venir le public. Si je pars trop loin, je verrai plus Mishka. C'est qui? Mon rat. Tu vas souvent à la ville? À l'école, parfois. Pour le curé aussi. Il me donne un bonbon plat, sans goût, et je lui raconte mes bêtises. Maman m'a obligé à aller le voir quand j'ai volé une vignette à l'école. Une fois, on a rendu visite à un grand monsieur, habillé tout en blanc, qui m'a gratté la tête et fait des piqûres. Il était gentil. Il a demandé à maman de m'acheter un bout de viande. Voilà, donc, vous voyez, donc c'est les 10 univers différents. Voilà, à trois. Et là, encore une autre particularité, vous voyez, donc Pauline n'arrivait à s'entendre avec aucun de nos élèves. C'était un grand, c'était assez délicat pour nous. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la confrontation, dans l'altérité. Et donc, nos élèves lui ont proposé, bah, finalement, on travaille tous avec toi. Voilà. Donc, ils étaient 6. Et donc, il en manque un, excusez-moi. Il y en a 6 qui ont répondu, qui ont fait cette proposition. Et comme elle avait fait une vidéo, ils ont écrit chacun, et on ne sait plus qui écrit quoi, etc., sous des vidéogrammes, des photogrammes de la vidéo. Voilà. C'est ce qu'ils lui ont proposé. Voilà, pour le... C'était quelqu'un qui avait fait des photographies dans le nord de l'Europe. Alors, je ne sais plus si c'est la Finlande ou la Norvège, mais de toute façon, c'est... Voilà. On voyait, c'était leur proposition d'aller sous chaque image. Voilà. Donc là, on est vraiment aussi dans un travail très, très collectif. Parce que là, plus collectif. Voilà. Même si c'est juste une photographe avec tous les écrivains. Mais en même temps, il a fallu que les écrivains s'entendent pour choisir quelle image, qu'il y ait quand même chacun défende un style d'écriture, mais qu'il y ait une cohérence pour qu'il y ait les partitions. Donc ça, c'était pour le livre. Et donc, après, on reprend le projet, mais même si le projet est anticipé sur l'exposition, pour après montrer ce travail en espace. Et tout en sachant qu'il est peut-être plus facile de mettre, alors ça, c'est mon propos du côté ENS, hein, mais de mettre au mur une photographie que de spatialiser un test, un écrit. Donc, il faut faire toutes les propositions possibles, une diffusion sonore, des photocopies. Des lettrines au mur, voire carrément dans un tirage, mettre les photographies, les mots, etc. Donc là, ils ont en un an pour travailler comment ils vont spatialiser leur partition. Et à chaque fois, la gageure, c'est de le montrer dans un lieu, dans un lieu, comment dire, confirmé. Donc, Dual était montré au Fonds régional d'art contemporain à la région PACA. 282 avait été montré à la bibliothèque municipale de Lyon. Et là où ça nous a fait plaisir, c'est que ce travail, qui était un peu, ouais, casse-gueule, entre guillemets, du fait qu'on travaille sur test image, une conservatrice du musée de l'Élysée à Lausanne, qui n'est pas du tout dans le système franco-français, est passée voir l'exposition à la bibliothèque municipale et a trouvé ça très original et intéressant. Il nous a montré de le remontrer au musée de l'Élysée à Lausanne, voilà. Et donc on était très contents. Et en même temps, elle, son argument, c'est de dire, ben voilà, on a aussi des très bonnes écoles de photographie, l'école de Vevey, l'école cantonale d'art de Lausanne, l'ECAL, mais il se passe des choses intéressantes de l'autre côté des Alpes. Donc c'était aussi bien pour nos tutelles respectives, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, d'avoir cette reconnaissance extérieure. Extérieur, qui a permis aussi d'avoir des crédits supplémentaires pour continuer ce projet. C'est, voilà, c'est le nerf de la guerre à l'heure actuelle. Alors, Donc ça, c'était sur... Mais je voudrais juste, après, juste voir une vidéo sur Internet qui présente l'exposition. Alors, c'est sur le site de l'école. Donc pour... je vais vous montrer une exposition qui s'appelle « À distance », qui était aussi un autre projet, mais là, je sais que ça existe parce que le projet a été mis en ligne, parce que je fais une rubrique « Atelier ». Parce que là, pour « À distance », alors, je saute « Trafic ». Qui était le troisième partenariat, pour aller directement à distance, parce que là, c'était vraiment intéressant. En plus, ça peut vous intéresser directement, parce que j'avais travaillé avec une enseignante de l'Académie de Créteil et le Centre photographique d'Île-de-France pour faire tout le dossier de médiation du travail réalisé par nos élèves. Et donc là, la boucle, pour nous, était bouclée, parce que c'est un travail fait par nos élèves qui est repris par une académie pour former des élèves du primaire ou du secondaire. Et on l'a mis, on a tout mis en ligne exprès. Donc vous avez tout le projet, voilà. Donc vous avez pareil en ligne des partitions. On a Blanc de Jessica Hervault et Rémi Waré. Alors vous voyez, là, c'est encore un autre style de partition. C'est vraiment aussi un dialogue là, et jusqu'où on peut aller. Donc Jessica Hervault fait des photographies dans le style de David Lynch, voilà. Et Rémi Waré écrit. Et en même temps, comment dire, ils vont s'intéresser à... l'un va cacher la photo et la photographe va dire « Oui, mais ce mot, ça ne me plaît pas ». Et avec du blanco, elle va mettre du blanc sur le mot. Et en fonction du degré de lisibilité, donc une couche, on arrive encore à lire sous le blanco. Mais si on en met deux, on n'arrive plus à lire. Et donc, ça ne donne que des mots, voilà, donc riture, auto, vide, infécond, à renoncer aux appuis. Et pourtant, Rémi avait écrit tout un test qui avait un sens. Mais là, la photographe propose un autre sens de son test, donc, et avec son accord ou son désaccord. Donc là aussi, ça a été un moment de très grande friction, parce que des fois, Rémi n'était pas du tout content, parce que jusqu'où on peut aller dans l'altération, le caviardage d'un test, et voilà. Ou après, là, vous voyez dans la partition, elle a carrément mis sa photo sur, voilà. Alors là aussi, c'est des questions de psychologie, parce que Rémi n'arrivait jamais à cacher complètement une photo, et alors qu'il avait le droit. Alors que la photographe, elle, ça ne la gênait pas de virer des mots, entre guillemets. Mais en même temps, dans la partition, il y a une chose intéressante, c'est qu'elle va garder un moment que les lettres qui font dysfonctionnement. Et alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pareil, hein, dans une exposition, soit on regarde très rapidement et on ne voit pas toutes les subtilités, soit on prend du temps, voilà. Et là, c'est vrai que certaines personnes ont remarqué qu'il y avait le mot dysfonctionnement qui apparaissait dans un pavé de test qui a été blanchi, voilà, avec du blanco. Et voilà. Donc ça, c'est une des partitions, c'était pour vous montrer, parce que ça, vous pourrez revenir sur ce site, hein, qui est consultable, ça s'appelle adistance-ens-lyon.fr. Et donc après, on a l'exposition, donc des tests, là, la journée. Oui, on accompagne aussi avec des journées écriture et photographie. Donc, par exemple, là, on avait fait une journée écriture et photographie où on avait une lecture de Jean-Marie Delaize sur Images-mots. Donc, il y a l'intégralité de sa lecture. Et une lecture performance d'un des écrivains qui s'appelle Damien Blanchard, qui est un poète, un jeune poète, qui est publié dans différentes revues. Et la particularité de Damien, c'était aussi très intéressante. Une particularité intéressante, c'est qu'il est sourd. Et ça ne l'a pas empêché, et en plus de milieu modeste, ses parents sont ouvriers, et ça ne l'a pas empêché d'arriver premier au concours d'entrée en philosophie à l'école. Et il a travaillé donc avec un photographe sur la question du handicap, et de nous placer dans le handicap que lui, il a subi tous les jours. Et donc, il enlève les bouches, Des photographies, et c'est pourtant des gens qui parlent entre eux, mais on n'arrive pas à savoir ce qu'ils se disent. Voilà. Et il a fait tout un travail comme ça, et c'est, là, par contre, voilà, et les photographies ont été faites en fonction du générique qu'il a pensé, etc., pour nous mettre dans une... Nous, qui avons toutes les facultés, de nous mettre dans une situation handicapante. Voilà. Alors, maintenant, il a eu une aide, etc., pour acheter, tu sais, une sorte d'appareil. Et alors, il entend des choses. Voilà, donc sur la médiation. Et alors, dans la médiation, on a tout le dossier qu'a réalisé l'enseignante avec nos élèves sur le projet. Vous voyez le dossier pédagogique qui est téléchargeable.
C'est sur le site de Créteil.
Non, sur le site ENS-Lyon. Après, ouais, sur Créteil, ils doivent l'avoir. De toute façon, pour, tu vois... alors, attends. Voilà, la responsable le professeur relais de la DAC de Créteil s'appelait Sandra Muraille, avec qui on a travaillé, pour mettre en place ce dossier pour les visites scolaires. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'elle a fait vraiment avec donc des thématiques, des entrées, les pratiques collaboratives, tests et images. Alors, je vais trop vite. Mais de toute façon, je l'ai imprimé. Je suis bête. Je peux lire aussi comme ça. Même si, pour vous, c'est plus intéressant de le voir à l'écran. Donc, vous voyez, après, elle a fait des entrées par projet. Et alors, des pistes pédagogiques pour les classes, des références artistiques par médium, des sélections iconographiques et quelques repères. Après, c'est en direction du secondaire ou du primaire. Donc, il faut que ça soit des instruments de travail, pas... Donc, par exemple, entrée thématique, pratique collaborative, il rappelle que ce type de travaux, par exemple, ils repartent du My Art sur l'art postal. Même si maintenant on utilise les courriers électroniques, beaucoup d'artistes travaillaient aussi par échange postaux, la correspondance, d'autres entrées. Alors, après, vous voyez, pour chaque projet. Ah oui, non, d'accord. Là, c'est pas décliné. Elle fait carrément, d'accord. Après, les entrées thématiques, tests et images. Alors, est-ce qu'elle fait... Non, pareil, il faut lire l'intégralité pour trouver ces pistes. Mais pourtant, à un moment, parce que c'était nous, ça nous avait vraiment intéressé. Donc, pareil, la mise en espace et l'intermédialité, voilà, sur l'écriture et la photographie. Ah ouais, voilà, c'est ça. Les mots entrés par projet. Donc, vous voyez, on a juste parlé du projet Jessica Hervault et Rémi Waré. Et donc là, vous voyez, elle décline des mots-clés. Nocturne, atmosphère, enquête, effacement, ruine, vestige, recomposition, policier, disparition. Les médiums utilisés sont basiques. Hein, tapuscrit, photographie, stylo, correcteur blanc. Elle redonne quand même la définition de blanc qui est le titre, hein, qui veut dire blanc, vide aussi. Parce que c'est aussi important ce mot vide. Voilà. Et après, elle explique une partie du projet. Et pareil, elle décline chaque projet comme ça. Voilà. Et même des projets très durs, comme celui de Laura Caraballo et Julia Milvard, qui a été le plus difficile à faire passer pour les enfants, parce que c'est deux élèves qui viennent d'Amérique du Sud. Et Laura est argentine et Julia brésilienne. Et... Elles sont parties de la notion d'angoisse, mais qu'est-ce que représente l'angoisse pour la psychologie féminine? Et elles ont décliné à travers de la récupération d'images. Donc elles n'ont rien produit. Elles ont fait des ready-made textuels ou des ready-made d'images. Et de décliner ce que c'est que l'angoisse, aussi bien au niveau de la torture, et jusqu'à la pornographie. Et il a fallu quand même censurer dans la mise en espace pour mettre certaines images. Chose qu'on n'a pas fait dans le livre, on a fait une mise en garde. Mais dans le livre, on a toutes les images qu'elles ont choisies. Donc, et puis, vous voyez que les styles sont très différents. Là, on a une photographie noir et blanc, plus classique, d'Edouard Beau, sur les scènes de conflit en Afghanistan, Et là, il travaille avec une élève de chez nous aussi, mais qui était tunisienne, et qui fait une lettre d'amour, donc la petite histoire qui rencontre la grande histoire. Voilà, des photographies de reportages de guerre d'Edouard Beau, qui va vraiment sur les terrains de conflit, etc. Et elle qui écrit une petite lettre d'amour, et c'est la rencontre entre ces deux univers. Donc voilà, donc déclinaison avec les mots-clés, les médiums, donc voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers toutes ces partitions, on a différentes entrées possibles et qui servent pour la formation sur écriture et photographie. Et Voilà, donc après on peut reprendre. Alors je veux aller juste à la fin, jusqu'au. Allez, regardez, pour Damien Blanchard et Benjamin Roulet-Descamps, tu n'es pas tu. Donc vous voyez les mots-clés silence, synesthésie, image son, montage générique, obsolescence, kitsch, accidentel, médium, vidéo, VHS, projecteur, tritube. Oui, parce que pendant l'exposition, là c'est pas. C'est ça, les photos là, donc vous voyez, ils ont occulté carrément là les visages. Hein. Donc on sait pas. Et pourtant, il y a un générique, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Mais pour l'exposition, parce que comme je vous disais, il y a deux temps. Il y a le temps du livre et le temps de l'exposition. Le temps de l'exposition, ils ont voulu reprendre des films des années 80 et les repasser sur un projecteur tritube. Alors c'est hyper difficile à trouver ça. C'était les premiers projecteurs avec trois lumières qui pixelisent énormément, etc. Et de les remettre dans les conditions de projection des années 80. Et donc et par contre de continuer à faire comme à l'époque on mettait une cassette, on enregistre quelque chose, on n'a pas le temps de rebobiner, mais on a quelque chose qui passe à la télé qui nous intéresse, on la remet. Et c'était, voilà, ils sont partis de ce principe. Voilà, en 2012, voilà, si la cassette existait, bah, on ferait des choses comme ça. Et ils ont fait leur montage avec une VHS, donc un magnétoscope VHS, une projection sur un projecteur des années 80. Donc pareil, ils nous mettaient dans une situation aussi un peu improbable. Nous, spectateurs 2013, bah, là c'était en 2011, l'exposition, on est confronté à des instruments qui n'étaient pas si vieux. Que c'était, je sais pas, la cassette ou le magnétoscope jusqu'en 2005. Moi, j'en ai encore un magnétoscope. Donc c'est, mais maintenant, on fait tout en DVD ou Internet, etc. Donc c'était aussi, voilà. Et alors après, pareil, dans les pistes pédagogiques pour les classes, donc vous voyez, elle a décliné des projets, des différents types de. Alors, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'elle a travaillé avec chaque binôme ou chaque trinôme. L'enseignante de l'Académie de Créteil pour décliner. Vous voyez, elle fait des pratiques. Là, par exemple, elle propose pratique collaborative lien test-image, sujet test-image, test seul, image seule, avec des protocoles ludiques, cadavre esquis, collage, échange épistolaire, chaîne mot, image mot, compétence du socle commun, la maîtrise de la langue, produire du sens, avoir des repères littéraires et en art, appréhender les relations entre l'image et son référent, savoir travailler en groupe, écouter les autres. Vous voyez, elle reprend aussi des choses que nos élèves ont vécues pour dire, voilà, dans ce projet où on va mettre des élèves ensemble, où ils vont travailler sur une relation test-image, et elle propose des jeux surréalistes. Alors ça, je n'ai toujours pas compris pourquoi Claude Cahun, mais bon, c'est parce qu'il y avait l'exposition au même moment au jeu de paume, hein, c'est pour ça, je pense. Et le Mal Art. Donc, vous voyez, elle en a proposé un certain nombre sur différentes... Donc là, on était dans la pratique collaborative, parce que, c'est en résonance avec le titre du séminaire. Mais elle avait proposé, tisse, collage, pitté. Ça, c'est intéressant, pitté. Une dictée graphique. Donc, le sujet, peindre ou dessiner simultanément à l'écoute d'un test décrivant une œuvre ou d'un test littéraire. Et donc c'est intéressant parce que donc quelqu'un dit un test et on dessine, on envisage le mot, l'image qui correspond au mot. Compétence du socle commun, pareil, maîtrise de la langue, produire du sens, avoir des repères littéraires en art, appréhender les relations entre l'image et son référent. Donc la variante, c'est appréhender les relations entre l'image et son référent, donc la question de la représentation. Et les références, Émile Zola, Francis Ponge, Stanley Brown et Till Roskens, pardon. Donc vous voyez, je ne sais plus combien elle en a fait, mais un certain nombre, parce que c'était aussi en lien. Et ça a été nourri avec des discussions entre nos élèves et elle, et des enseignants qu'elle avait réunis de différents collèges de l'académie. Parce qu'en tout, je ne sais plus combien il y avait eu de visites, mais ça avait bien fonctionné. Et après, elle donne toute une liste de références artistiques par médium qui correspondent. Voilà. Parce que généralement, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une visite de l'exposition avec leur enseignant. Et puis après, ils repartaient en classe. Et je ne sais pas après comment se faisait le choix sur comment ils allaient travailler sur le domaine. Mais ils prenaient une des pistes proposées et ils travaillaient dessus. Ils travaillaient dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai demandé si je pouvais assister juste en témoin, en observateur, sans participer, sans rien dire, etc. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant et j'étais plutôt content qu'on boucle la boucle, que ce travail issu de futurs enseignants, voilà, on les forme aussi à transmettre ce qu'on demande à l'heure actuelle par rapport à l'histoire de l'art. Voilà. Et en plus sur des choses concrètes, parce que je veux surtout pas, en tout cas ça c'est mon point de vue subjectif, hein, mais que l'histoire de l'art devienne de la théorie et que le mot histoire soit trop fort par rapport aux arts plastiques. Voilà, voilà. Peut-être je...
C'est bon, merci beaucoup, David, là, pour nous avoir raconté par le menu ce projet donc, entre l'ENS et l'école de photo d'Arles. On va peut-être d'abord laisser les questions dans la salle.
On peut faire passer les livres, comme ça.
On peut faire passer les livres pour voir les projets. Enfin, il n'y a plus l'exposition, mais il reste les livres. Donc, si vous avez des questions à poser à David. Alors, en attendant que les questions mûrissent, tu disais, David, que plus les projets avançaient, plus ils se complexifiaient. Alors, aujourd'hui, où est-ce que ça en est dans la complexité, en fait ?
La complexité, c'est qu'on introduit maintenant des notions de graphisme. Et on travaille avec... parce que là, par exemple, maintenant, on travaille... La prochaine édition co/opérateur va être montrée au Centre national de l'estampe et de l'édition d'art, l'ETNA, qui se trouve à Chatou. On va donc la demande, donc c'est vraiment un partenariat là aussi avec ce lieu qui a des archives, etc., de travailler, et il y a beaucoup de relations poésie contemporaine et art plastique, art, dans ce lieu. Et c'est de travailler à partir de leurs archives et de leurs amener aussi à... Après la mise en place de la partition dans l'ouvrage qu'ils le font, de retravailler aussi avec un graphiste pour affiner des choses graphiques. Alors après, c'est aussi une évolution du projet. Moi, c'est vrai que ce qui était intéressant pour nous au départ, c'était vraiment le contenu entre l'image et le texte, et que ça peut prendre aussi une signification. Après, comme on travaille avec une école d'art, c'est vrai que cette demande s'est amplifiée, et c'est vrai qu'on travaille sur une chose intermédiaire. Donc, et c'est vrai que le graphisme est aussi une chose entre l'écriture et la photographie. Et comme nos élèves, aussi bien les élèves d'Arles, ils sont pas non plus, c'est pas une école de graphisme, donc ils ont besoin aussi de faire des workshops, des séminaires, des ateliers sur cette demande. Ce qui pour nous est compliqué parce que le temps, lui, il n'est pas élastique. On a le temps de travail, c'est deux années académiques.